contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Clémentine, Jean-Luc,
bonjour.
Bonjour
David,
Stéphane.
Bonjour à vous.
Bonjour Stéphane. Bonjour.
Et celle qui est avec nous aujourd'hui, notre historienne des mœurs, bonjour Virginie Giraud.
Bonjour à tous, je suis contente de Virginie. Commencer la semaine avec vous.
Mais oui, on est ravis de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser. Ils ne vivaient pas à la même époque mais qui ont tout de même un point commun. Aujourd'hui... Mais oui, cher Henri Salvador, il faut rigoler. Alors qu'aujourd'hui serait, paraît-il, la journée la plus triste de l'année, de Blue Monday. Eh bien, on va ajouter encore un peu plus de sourire dans ce studio et dans vos oreilles, chers auditeurs, avec nos personnages du jour qui, eux, ont le sourire. C'est le thème d'Historiquement Vôtre qu'on a choisi cet après-midi, tout simplement. À commencer par la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun, connue notamment pour ses toiles représentant Marie-Antoinette, qui a libéré l'art du portrait en peignant des visages souriants et naturels, à commencer par le sien et celui de sa fille, vous verrez. Puis lui, son sourire terrifiant en a inspiré un autre plus célèbre encore. Je vous raconte le comédien Conrad Veidt, qui a joué dans L'homme qui rit, un homme dont le visage a été mutilé, la bouche élargie de chaque côté jusqu'aux oreilles, formant un horrible sourire qui ne s'efface jamais. Un sourire repris ensuite dans les comics, les BD américaines, par un certain Joker. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, qui rit lui aussi.
Ah oui, alors son nom ne vous dit peut-être rien. Il s'appelle Yoo Min-joon, mais sa tête, vous l'avez forcément déjà vue sur l'une de ses toiles sur lesquelles il se met en scène en riant, un peu, beaucoup, à la folie. Je vous présente cet artiste chinois tout à l'heure.
Avec eux aussi, on rit un peu, beaucoup, et parfois même avec elle à la folie, la preuve.
Ah, c'est moi, ça, c'était Pharaon.
Ah oui.
Le rire du diable. Alors, elle rit, mais elle nous apprend des choses aussi. En nous entraînant dans l'intimité des grandes ce monde, n'est-ce pas, Clémentine?
Oui, alors là, je vous apprendrai pas grand-chose, sans doute, en vous rappelant que Sœur Sourire fut l'inoubliable interprète d'une chanson un peu bébête, Dominique. Voilà, on a tout ça en tête. En revanche, savez-vous que c'était une chanson tout à fait historique, Dominique. Eh oui. Ah, ben, c'est ce que je vous apprendrai.
Sur Dominique Strauss-Kahn.
Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. Et aujourd'hui, vous me parlez japonais, David.
Oui, je vous parle du Shindogu. Le Shindogu, c'est un art japonais qui consiste à construire des objets qui ne sont pas utiles, mais qui ne sont pas non plus inutiles. Je sais que ce que je dis là est énigmatique,
oui.
Mais je résolverai cette énigme dans ma chronique à la fin de cette émission.
Très bien, ça nous donne envie d'attendre. Les origines, c'est en toute fin.
Je résoudrai, pardon, pas je résolverai.
Oui, je me disais aussi, ça se posait guère, vous reprendre.
Oui, oui. Mais vous avez, vous parlez si bien le japonais, et si mal le français. Les origines, dans toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte en 1782. On parle société avec vous, Virginie Giraud, et même féminisme, même si... le terme n'existait pas encore en tant que tel, du féminisme dans l'une des œuvres les plus sulfureuses de l'époque.
Et oui, il s'agit des Liaisons dangereuses. Est-ce que vous vous souvenez,
oui.
vos émois, la
Mais
première
oui.
fois que vous avez lu les Liaisons dangereuses?
Ou vu au cinéma, je vais être très honnête.
Ouais, je l'ai d'abord vu au cinéma avant de le lire, ouais. Chauderlot de la Clé.
Moi, je l'ai fait, le livre et machin, mais je me souviens surtout du Mathurman.
Moi, je l'ai lu. Amoureuse de Valmont,
ouais.
quand même.
Oui,
je l'ai lu parce qu'il était, je crois qu'il était encaserné à Grenoble, et donc ça m'intéressait parce que c'est ma région. J'avais été stupéfaite d'apprendre que ça se passait par là, parce que pas une ville très rigolote,
rien, pas d'érotisme, c'était Grenoble en fait.
C'est Grenoble, ça fait un peu déchanté.
Mais vous verrez surtout que ce livre est un livre crypto-féministe.
Ah, oh. Très bien. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40.
Mais à part ça, vous avez tout dit, Stéphane?
Ah ben non, j'en garde sous la pédale, hein. L'émission ne fait que commencer.
Oui, on va essayer de rester poli. Ah, non, écoutez, je parlais de ça. C'est la grande compète historico-hystérique entre Stéphane et Clémentine. Qui sera l'histoire? Qui sera l'hystérique? Bah, réponse dans trois quarts d'heure.
Bon, j'ai déjà ma petite idée, mais...
Mais moi aussi, j'ai ma petite
vous
idée.
Vous utilisez, hein. Pour le moment, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le récit.
Stéphane Bern.
Son nom est indissociable des teintes de rose et des bruissements de taffetas pastel du XVIIIe siècle. Direction Versailles, dans les appartements de Marie-Antoinette, où la portraitiste la plus célèbre du siècle des Lumières travaille à représenter la reine de France, les fastes de l'ancien régime finissant, mais aussi à se peindre elle-même, avec le sourire, s'il vous plaît. Je vous raconte maintenant Élisabeth Vigée-Lebrun. La scène est touchante. Une jeune femme assise tient dans ses bras une petite fille, sa petite fille, levée contre son corps. Toutes les deux fixent le spectateur du tableau avec des yeux emplis de tendresse. Leurs tenues informelles ajoutent à l'intimité de la scène. Est-ce cela qui perturbe le public ? Non, pas du tout. Regardez encore. La tête inclinée de la maman, ses traits détendus. Allons, rien ne vous surprend ? Ses lèvres légèrement entrouvertes qui s'étirent en un léger sourire. Tout de même, montrer ses dents, mais on n'y pense pas. En cette année 1787, la bonne société parisienne et versaillaise qui visite les salons du Louvre s'étonne face à cet autoportrait quelque peu transgressif. Celui d'Élisabeth Vigée-Lebrun avec sa fille Julie, âgée de 6 ans. La peintre, elle, en a 32 et c'est déjà une artiste très reconnue. Elle est née au printemps 1755, ici à Paris, dans une famille un peu bohème, proche de la bourgeoisie et de la petite aristocratie. Son père, Louis Vigée, est un pastelliste de renom qui très tôt décèle chez sa fille un talent artistique. Il faut dire qu'Élisabeth dessine partout, tout le temps, sur ses cahiers comme sur les murs du dortoir de son couvent, avec des morceaux de charbon. La petite a 8 ans lorsqu'elle montre à son père le portrait d'un homme qu'elle a esquissé en quelques traits. Subjugué par le talent de sa fille, Louis s'écrie enthousiaste « Tu seras peintre, mon enfant, ou jamais il n'en sera ». Pour l'heure, la jeune fille apprend des gestes de son père et de ses collègues. Louis meurt quand elle a 12 ans, seule avec sa mère et son frère, sans revenu. Élisabeth peint pour subvenir aux besoins du foyer. Pour peaufiner sa technique, l'adolescente passe des heures au Louvre, au Palais du Luxembourg et dans les galeries pour étudier les œuvres des grands maîtres, Rubens, Van Dyck, Raphaël. Lorsque sa mère se remarie, le beau-père d'Élisabeth lui confisque les revenus qu'elle tire de sa peinture. Cette injustice la révolte. Élisabeth a de l'ambition et d'abord celle de vivre de son art. Un an plus tard, Élisabeth se résigne à épouser le marchand d'art Jean-Baptiste Lebrun, qui lui fait une cour assidue. Le mariage ne l'enchante guère, mais c'est aussi un moyen de s'émanciper. Pour conserver un peu d'autonomie, Élisabeth décide de garder son nom de jeune fille, Vigée, accolé à celui de son époux. Un choix peu commun à l'époque. Élisabeth Vigée-Lebrun, donc, continue à peindre. Son talent s'épanouit, surtout dans les portraits, grâce à une technique. Elle peint sur bois et réussit ainsi, plus que sur une toile, à révéler la délicatesse d'un contour des yeux, les détails d'une bouche, la transparence de la peau qui laisse deviner le tracé des veines. Son travail plaît, son nom est sur toutes les lèvres. En 1776, elle reçoit même une commande du comte de Provence, le frère de Louis XVI en personne. Élisabeth Vigée-Lebrun peut désormais évoluer dans le sillage des personnalités importantes de la cour. Marie-Antoinette, la reine de France depuis peu, désespère de trouver un jour un peintre capable de fixer son image sur la toile. Elle espère que ce sera elle. Quand les deux femmes se rencontrent, elles ont exactement le même âge, 23 ans. Intimidée, Élisabeth est concentrée, son corps entier est tendu vers sa toile. Ses yeux vont sans cesse de son modèle à son chevalet. L'artiste est subjuguée par cette reine dont elle commente la beauté dans son journal. Les bras superbes, les mains parfaites, les pieds charmants. Mais ce qui frappe surtout Élisabeth, c'est l'éclat du teint de Marie-Antoinette. « Les couleurs me manquaient pour peindre cette fraîcheur », écrit-elle. De son côté, la souveraine accepte les heures de pause sans rechigner. Entre elle et la peintre, une relation de confiance et de complicité grandit. Ensemble, les deux femmes chantent des duos imaginés par André Grétry, le maître du clavecin de la souveraine. Le roi lui-même lui témoigne une certaine affection. Elle lui aurait même glissé ce joli compliment. « Je ne connais pas la peinture, mais vous me la faites aimer ». Sur les portraits d'Élisabeth Vigée-Lebrun, Marie-Antoinette se plaît. Enfin une peintre qui la voit comme une femme et plus seulement comme une souveraine. C'est la force d'Élisabeth. Elle s'affranchit des codes rigides de l'exercice, au risque de choquer. En 1783, elle peint Marie-Antoinette dans une robe de mousseline bien trop légère pour une reine de France. Le tableau, trop éloigné des représentations habituelles de la majesté royale, est rapidement décroché des murs du salon au Louvre. Le scandale n'effraie plus l'artiste, bien au contraire. Il lui fait en outre une bonne publicité et ravit aussi son mari qui continue à vendre ses peintures à Paris. Elisabeth Vigée-Lebrun veut renouveler l'art du portrait. Elle s'exerce aussi en se peignant elle-même, seule ou avec sa fille Julie. Ses toiles reflètent les idées de son temps. La naissance de l'individualité, de l'expression de soi, la recherche d'une plus grande simplicité dans l'apparence. Je vous le disais, Elisabeth se laisse aller à sourire et ses lèvres étirées découvrent ses dents. Auparavant, seuls les fous ou les enfants étaient ainsi représentés. En plus des réflexions philosophiques des Lumières, ce sont aussi les progrès en matière d'hygiène et des soins dentaires qui permettent désormais de montrer une dentition que l'on devait autrefois cacher. Admise à l'Académie royale de peinture grâce à l'intervention de la reine, Elisabeth Vigée-Lebrun peut se féliciter de son ascension fulgurante. En moins de 10 ans, elle est devenue la peintre officielle de la souveraine la plus influente du monde, une artiste au succès considérable et aux revenus très confortables. Mais la révolution est là et elle va faire voler en éclats tout ce que la jeune femme avait construit. Proche de la famille royale et de la reine tant décriée en particulier, Elisabeth Vigée-Lebrun est naturellement la cible des pamphlets très virulents. Dans la nuit du 6 octobre 1789, alors que le peuple ramène la famille royale à Paris, elle est contrainte de quitter la capitale de toute urgence. Sautant dans une diligence avec sa fille et sa gouvernante, elle prend la direction de l'Italie. Dans la péninsule, la jeune femme est entre autres accueillie par la sœur de Marie-Antoinette. Sa renommée dépasse les frontières de la France et les aristocrates de Naples sont fiers de lui commander leurs portraits. C'est encore une fois grâce à son travail qu'Elisabeth peut gagner sa vie. L'existence se fait néanmoins au jour le jour dans ce long exil à travers l'Europe. Elisabeth est à Rome, à Venise, en Autriche, en Hongrie, en Allemagne. Près de 6 ans après avoir quitté la France, la peintre arrive à Saint-Pétersbourg. La magie de la ville et le faste de ses palais la séduisent immédiatement. Là aussi, Vigée-Lebrun du travail. Tout ce que la Russie compte de noble veut poser pour la peintre française qui a si bien connu Marie-Antoinette. Sur les bords de la Neva, elle goûte au plaisir des salons et des concerts. Son pays lui manque, mais la révolution s'éternise. En 1802, après 6 autres années passées dans la capitale impériale, la peintre peut enfin rentrer en France. Arrivée à Paris, Elisabeth Vigée-Lebrun ne reconnaît plus rien, ou presque, de ce qu'elle a connu. Progressivement, elle renoue avec d'anciennes amitiés et s'en crée de nouvelles dans les salons littéraires où la musique est reine. D'ailleurs, Elisabeth aussi tient salon. L'artiste continue de peindre, mais elle vieillit. Alors qu'avance inexorablement le 19e siècle, ses progrès scientifiques et ses changements de régime politique, elle a le sentiment de ne plus rien comprendre au monde qui l'entoure. À la fin du mois de mars 1842, au terme de 87 trépidantes années, Elisabeth Vigée-Lebrun meurt à Paris. Mais son sourire, timidement affiché sur ses autoportraits, reste lui éternel.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Elisabeth Vigée-Lebrun avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne spécialiste du XVIIIe siècle et de l'histoire des femmes. Bonjour Cécile Berly.
Bonjour.
Cécile Berly, vous êtes notamment l'auteur du livre « Trois femmes », dans lequel, aux côtés de Mesdames du Défunt et Madame Roland, vous relatez le parcours d'Elisabeth Vigée-Lebrun. C'est sans doute la femme peintre la plus connue du XVIIIe siècle en France. C'est un cas à part, parce que quelle place ont les femmes dans le domaine de la peinture? Il y a Madame Loire, il y a peut-être Kaufmann.
Il y a Madame Labiguillard.
Oui.
Elles sont évidemment très peu nombreuses. Non pas que les femmes n'ont pas de talent, mais c'est évidemment un domaine, celui des arts, qui reste largement masculin. Et on peut dire que Vigée-Lebrun, grâce à elle, elle va, au cours de ce 18e, considérablement accélérer la professionnalisation des femmes artistes. Et si on se concentre sur une histoire de l'art française ou européenne, Vigée-Lebrun joue effectivement un rôle fondamentale dans cette possibilité offerte aux femmes de vivre de leur travail.
Clémentine. En même temps, on la connaît essentiellement pour ses portraits, mais pourquoi? Est-ce que parce que, en tant que femme, certains sujets lui sont autorisés, d'autres non? Par exemple, est-ce qu'elle a le droit de peindre des nus? Quelles sont les règles pour les femmes peintres?
Alors, si elle est portraitiste, si j'ose dire, c'est un peu malgré elle. Parce que justement, elle est femme, certains enseignements lui sont tout simplement interdits. L'étude du nu, de l'anatomie, l'enseignement à l'académie, c'est tout simplement impossible pour une femme. Et puis, il n'était pas non plus envisageable encore au XVIIIe siècle, ça sera le cas encore au XIXe, faut pas l'oublier, qu'une femme, par exemple, puisse peindre ce qu'on appelle le genre supérieur, c'est-à-dire la peinture d'histoire, la peinture mythologique, entre autres parce que justement le nu n'est pas permis.
Aucun modèle nu ne peut poser devant une femme.
Exactement. Donc Vigée Lebrun va réussir dans l'art du portrait, il faut le dire magnifiquement, mais c'est pas du tout, d'ailleurs elle l'écrira dans les dernières années de sa vie, ce qu'elle aurait aimé faire, c'était la grande peinture, la peinture religieuse, la peinture d'histoire.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire de dents que nous a raconté Stéphane, en quoi le fait de montrer un petit bout de dent, un petit sourire, c'est choquant à l'époque?
Eh bien parce que, comme pour toute époque, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Ça fait partie des contradictions du XVIIIe siècle, qui évidemment est à la fois un siècle de liberté, de transgression, mais aussi un certain nombre d'interdits, de convenances. Et dans les convenances au XVIIIe siècle, parmi les choses qu'on ne montre pas, eh bien, il y a la dentition. Alors, il y a évidemment des raisons esthétiques, dentaires, bien évidemment, mais pas que. Ça fait partie des éléments du corps qu'on ne souhaite pas montrer, exhiber. On oublie un peu trop facilement que Vigée Lebrun, c'est une portraitiste qui est quasiment tout le temps dans la transgression. La façon dont elle a pu portraiturer Marie-Antoinette et bien d'autres.
La robe de Gaulle, par exemple, ça a fait un scandale. Le chapeau inouï. De paille.
Bien sûr.
Parce qu'on ne représente pas la majesté royale comme ça.
Ce n'est pas la majesté royale. C'est le goût d'une femme. Une femme libre qui voulait s'émanciper par le vêtement. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on attendait, ni de Marie-Antoinette, ni de Vigée Lebrun.
De son vivant, la peinture d'Élisabeth Vigée Lebrun connaît un grand succès critique. Sa peinture est couverte de louanges, elle connaît une ascension fulgurante. Mais il y a un revers à tout cela, c'est sa proximité avec la reine Marie-Antoinette, évidemment, elle va finir par le payer.
Ah, elle va le payer même très cher. Ce qu'on peut reprocher à Vigée Lebrun, principalement, ça va être d'évoluer à la marge peut-être, mais du cénacle de Marie-Antoinette. Elle est très proche de personnalités incontournables de la cour. Je pense par exemple à Vaudreuil. On va lui reprocher aussi évidemment de vendre sa peinture à prix d'or. Et puis on va lui reprocher tout simplement parce qu'elle est femme, et bien d'avoir une existence, d'évoluer dans cet espace public, d'avoir du succès, d'avoir de l'indépendance, de l'argent. Et comme pour la plupart des femmes du XVIIIe siècle, les femmes qui évoluent dans l'espace public, ce sont des femmes qui sont très mal perçues. Très mal jugée.
Cécile Berly, on a vu la clientèle d'Élisabeth Vigée Lebrun. On connaît beaucoup de portraits de femmes qu'elle a réalisés. Mais est-ce qu'elle a peint des hommes aussi?
Oui, elle a peint des hommes et elle va en peindre même très tôt dans sa carrière. Alors, pas seulement pour des raisons artistiques, c'était manifestement pour ces hommes de tout âge de pouvoir aussi approcher une femme qui était réputée non seulement grande artiste, mais aussi belle femme, beaucoup de charme. Et manifestement, sa clientèle masculine souhaite poser devant cette femme pour aussi une sorte ébaucher des relations de séduction dans lesquelles manifestement Vigée Lebrun ne tombait absolument pas.
Non, mais il y a quand même quelque chose de très sensuel là-dedans, c'est-à-dire dans le fait pour un homme de poser et d'obéir aux ordres d'une femme, rester, faites tel et tel geste, ne bougez pas, et il devait y avoir quelque chose, une espèce de tension
et
érotique.
Et puis vous avez le temps d'admirer sa beauté, surtout.
Et surtout si elle était très belle, en effet, oui.
Il fallait poser des heures à l'époque et...
Et surtout, pouvoir poser devant une femme peintre, une portraitiste, c'était évidemment une chose tout à fait rare pour l'époque. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'hommes qui ont pu en profiter.
Mais il y a tout de même une question qui s'est posée dans l'histoire, d'ailleurs, à tous les portraitistes, entre la réalité et c'est-à-dire, est-ce qu'on peint au naturel, c'est-à-dire tel qu'on voit son modèle, ou est-ce qu'on l'arrange un peu? Et c'est vrai que Élisabeth Vigée Lebrun a un peu tendance à flatter ses modèles. Elle s'attache à gommer certains défauts physiques, comme elle l'a fait pour Marie-Antoinette. On nous dit, les historiens nous disent que c'est peut-être les plus beaux portraits de Marie-Antoinette, mais c'est pas les plus ressemblants.
Alors, je ne crois pas que Vigée Lebrun recherchait véritablement la ressemblance. Entre autres aussi, pour flatter évidemment le modèle, gommer tel ou tel défaut physique. Par contre, là où elle est très très forte, c'est qu'elle ne vend pas de la ressemblance, elle vend une image idéale. et une image qui se veut la plus libre possible, la moins conventionnelle, parce que quand on connaît bien l'ensemble de ces portraits, on s'aperçoit que, et on le voit aussi pour les hommes, ils bénéficient dans la façon dont ils peuvent poser devant cette femme, d'une certaine liberté, et je dirais même de contrôler leur image, l'image idéale qu'ils souhaitent communiquer d'eux-mêmes. C'est pas une image monumentale, c'est pas une image grandiloquente, c'est une image qui feint un certain naturel et qui s'approche au plus près de ce que pense être un individu. Comme disait Vigée Lebrun, elle peint l'âme et elle essaye de capter plus un caractère qu'une physionomie.
Mmh. Elle est une artiste convoitée, elle reçoit beaucoup d'argent, on l'a dit, mais est-ce qu'elle touchait l'argent directement en vendant sa toile ou est-ce que ça passait par monsieur son mari? Parce que dans cette société d'ancien régime, bah, les femmes sont toujours considérées comme mineures et elles doivent demander de l'argent à leur mari.
C'est une artiste de génie, mais qui, pour empocher son argent, est considérée effectivement comme une éternelle mineure. Et ça, Vigée Lebrun, ça la rend absolument folle, si j'ose dire. C'est-à-dire que le fait de gagner énormément d'argent, encore une fois, ces portraits se vendent vraiment à prix d'or. Tout cet argent, eh bien, parce que c'est la règle qui est ainsi, c'est son mari qui empoche son argent, c'est quelque chose qu'elle vit, on peut le dire, extrêmement mal. D'ailleurs, dans sa période d'immigration, quand elle quitte pour plus de 10 ans la France, une des choses qu'elle va adorer, c'est cette émancipation aussi économique, financière, parce qu'elle peint peut-être encore plus que quand elle vivait et travaillait en France. Mais surtout, là, c'est elle qui va mettre son argent dans ses propres poches. Elle a un rapport très fort à l'argent, pas pour des raisons seulement vénales, c'est parce qu'elle considère que son travail, l'argent, c'est l'argent de son travail qui doit donc lui revenir.
D'autant que pendant ce temps-là, son mari lui était resté en France. Il a passé toute la Révolution en France, me semble-t-il. Mais c'est peut-être pour cette raison même, ce sentiment de révolte vis-à-vis de ce travail dont elle ne percevait pas l'argent. Est-ce que c'est pour cela qu'elle a souhaité conserver son nom de jeune fille et signer toutes ses œuvres de son nom de jeune fille?
Ça, c'est pareil. C'est tout à fait transgressif pour l'époque. Alors, faut savoir qu'elle est fille de pastelliste, qu'elle a eu des liens très forts, pour ne pas dire fusionnels, avec son père Louis G, qui a été un très bon pastelliste. Et elle, avant d'épouser Lebrun, elle était connue comme Vigée. Donc il y avait aussi cette stratégie
de
professionnelle,
bien sûr.
Oui, quand vous êtes connue sous un nom et que vous vous mariez, il faut changer de nom, c'est toujours un peu compliqué. On a esquissé tout à l'heure le portrait physique d'Elisabeth Vigée Lebrun, une très belle femme, disiez-vous. Quant à son portrait moral, Cécile Berly, vous dites dans votre livre qu'elle est à la fois bohème et très ambitieuse.
Ah oui. Alors, elle est très bohème un peu dans son mode de vie, bon, déjà parce que c'est une artiste et que, par exemple, la plupart du temps, elle s'habille pas du tout comme une femme s'habille au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas de corset, ne porte pas de panier. Elle aime porter des tuniques. Elle aime avoir un corps le plus libre possible parce que c'est une femme qui travaille énormément et qu'elle a compris que pour travailler, pour réaliser son art, elle avait besoin d'être libre dans ses mouvements. Et puis, c'est aussi une femme qui, pour moi, fait partie de ces femmes dont l'ambition est chevillée au corps et qui vont jouer, bien sûr, bien malgré elle, un rôle essentiel dans cette histoire de l'émancipation féminine à travers le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une femme, moi je dis toujours de Vigée Lebrun, c'est une femme des Lumières. Même si d'un point de vue strictement politique, elle est déjà la politique ne l'intéresse pas du tout, c'était son droit le plus absolu, mais elle est très conservatrice, elle ne comprend pas pourquoi il y a une révolution, elle est totalement indifférente à ces questions économiques, sociales, les inégalités, etc. Au demeurant, dans son parcours de vie, elle fait partie de ces femmes qui vont vraiment participer à l'émancipation des femmes sur le temps long.
Merci beaucoup Cécile Berly de nous avoir raconté Elisabeth Vigée Lebrun. Votre prochain livre, Guillotiné, paraîtra le 1er février aux éditions Passé Composé.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre.
Exactement, et alors là je vais vous faire rêver avec cette musique. Ou pas, tout ça ou pas? Est-ce que ça vous met dans une bonne ambiance?
Oh, le vieux slow ringard! Alors qu'est-ce que c'est?
Il va être content, Herbert Léonard, pour le vieux slow ringard. Alors moi, je me désolidarise parce que j'en ai marre de recevoir des messages d'insultes de gens qui me disent « Ah, vous êtes moqué de moi !» Donc non, moi j'aime beaucoup Herbert Léonard.
C'est du Herbert Léonard.
Oui, c'est sur des musiques érotiques.
On va parler de quoi alors?
On va parler surtout d'érotisme.
Des loups-garous, on va parler de...
Mais c'est pas de l'histoire, ça, l'érotisme.
Non, mais les nudes.
L'histoire de l'érotisme.
Les nudes, ça vous parle?
Ah, les nus. Voilà la grande peinture historique.
Eh ben voilà, on va se rapprocher de tout ça tout à l'heure.
Vous ça restez calme, hein. C'est pas aussi intellectuel, ce quiz.
Oh, si, beaucoup plus que vous ne le pensez.
Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kaldenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin pas forcément souriant d'une sœur qui avait pourtant du sourire dans son nom. Sœur Sourire, évidemment.
Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu.
Il ne parle pas du bon Dieu, parce que ce qu'on ne sait pas, alors on connaît tous le refrain naturellement, mais c'est une chanson historique. Le premier refrain nous dit, voilà, à l'époque où Jean sans terre combattit les Albigeois. Donc Dominique Niquenique, en fait le Dominique en question c'est Dominique de Guzman, fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, également appelé des Dominicains, exactement Stéphane, qui a sinon participé activement, mais du moins suivi les croisés contre les Albigeois. C'était un des grands organisateurs d'une des dernières grandes joutes théologiques, si vous voulez. On pensait encore qu'on allait pouvoir faire ramener à la raison les Vaudois, les Cathares, etc. Ça n'a pas marché du tout, puis ça a été l'Inquisition quand même. Donc là, c'est quand même assez surprenant d'entendre cette jolie petite voix claire et au perché. Dominique, Nique, Nique. Ben non, Dominique, Nique, Nique, il suivait les croisés pour châtier les Cathares. Mais pourquoi est-ce qu'elle chante ça, la sœur Sourire? C'est parce qu'elle-même est dominicaine, Jeanne-Paul-Marie Deckers. Et voilà pourquoi elle a écrit...
Elle était belge, non?
Elle était belge, exactement. Voilà pourquoi elle a écrit ce titre. Hein. Elle a cette jolie voix claire, c'est vrai, qui plaît beaucoup à ses sœurs. Et donc, son ordre accepte qu'elle enregistre ce titre, mais sous un pseudo, et à condition que tous les bénéfices des ventes aillent à son ordre. C'est ce qui va se passer. Donc elle prend ce pseudo de Sœur Sourire. Son titre Dominique Nique Nique sort en 62 et ça cartonne, mais dans des proportions inimaginables aujourd'hui. Ah si, il y a eu quand même quelques succès de formations religieuses régulièrement. Il en sort
oui,
comme ça.
Il y a eu
ça.
Des prêtres là qui ont chanté
exactement,
encore récemment,
qui avaient une très belle voix. Mais tout de suite, ce titre se classe parmi les meilleures ventes dans de nombreux pays d'Europe et va être diffusé et cartonné aux États-Unis malgré des paroles en français. Il faut le faire quand même. Et en 1964, cette chanson a 4 nominations pour les Grammy Awards. Et va remporter celui de la meilleure performance religieuse. Alors, évidemment, pour Jeanne-Paul-Marie Deckers, Sœur Sourire, c'est évidemment très, très troublant, très déstabilisant, cette notoriété soudaine, surtout qu'elle, à ce moment-là, appartient à cet ordre des dominicaines. Donc, elle va quitter son ordre en 66 et tenter une carrière solo, sous d'ailleurs son vrai nom, c'est Luc Dominique, mais voyez ce nom-là, qui a quelque chose d'un petit peu androgyne,
oui, masculin,
ça,
oui.
Ben masculin, ça va pas passer, mais en fait c'est non pas son ordre, d'ailleurs c'est son contrat avec Philips qui lui interdisait d'utiliser ce pseudo que de toute façon on le trouvait complètement ridicule, hein. C'est un peu cucu, Sœur Sourire. Alors, sous le nom de Luc Dominique, elle tente une carrière solo, je le disais, avec des chants très engagés, parce qu'elle a rompu avec l'Église. Et puis elle va découvrir son homosexualité, elle va vivre avec une femme. Donc là, on sent qu'elle a fait un peu son coming out, elle en a ras-le-bol de l'Église. Et donc, tout ce qu'elle compose, c'est évidemment très engagé, je le disais, contre l'Église catholique et le conservatisme. Elle écrit le conservateur, contre le patriarcat. Elle écrit une chanson intitulée Le temps des femmes. Et tenez-vous bien, elle compose même une chanson sur la contraception intitulée La pilule d'or. Bon, alors, c'était quand même une bonne sœur particulière. Mais la mayonnaise ne va jamais prendre, même quand elle va être autorisée à reprendre son nom de Sœur Sourire. Alors tout ça, bon, c'est un peu triste cette histoire, si vous voulez. La seule vraie source de lumière dans ce tableau plutôt sombre, c'est qu'elle a rencontré l'amour en la personne d'Annie Péché. Et toutes les deux vont se consacrer...
Péché, vraiment ? Elle s'appelle Péché.
Oui, c'est beau, hein. Oui, bien sûr. Toutes les deux vont se consacrer ensemble aux enfants autistes. Mais il va se passer un truc, un drame fiscal, comme parfois notre administration.
On va lui
en
demander
offre.
des droits, alors qu'elle n'a rien touché.
Elle n'avait rien touché et l'administration fiscale lui réclame toutes les sommes dues sur ces sommes qu'avait touchées son offre.
Qu'ils aillent voir les Dominicaines.
Alors les Dominicaines ont accepté, elles lui ont redonné une partie, mais c'est sa maison de disques qui n'a jamais voulu. Bon, alors les malheureuses, toutes les deux, ont sombré inexorablement dans la dépression. Elles ont fini par mettre fin à leur jour en 1985. C'est terrible parce que c'est vraiment très triste. Et puis ça fait penser à l'une des chansons qu'elle avait composées quand elle avait quitté les ordres. Sa première chanson, c'était « Elle est morte, sœur sourire, elle est morte, il était temps. J'ai vu voler son âme à travers les nuages sur un tapis volant. » Ben oui, alors elle est partie sur son tapis volant. Mais enfin, pour terminer sur une note plus joyeuse, j'évoquerai la journée mondiale du sourire qui, depuis 1999, a lieu tous les ans le premier vendredi d'octobre. Et vous savez qui a eu l'idée de ce World Smile Day ? Eh bien, c'est un monsieur qui faisait de la pub pour une société d'assurance et il avait eu l'idée de ce personnage souriant, le Smiley, et il n'a pas eu l'idée du tout de protéger sa création. C'est un journaliste français, Franklin Loufrani, qui, 10 ans plus tard, a déposé le Smiley à l'INPI et il est devenu richissime. Alors, est-ce que Harvey Hall a versé toutes les larmes de son corps tous les premiers vendredis d'octobre jusqu'à sa mort à 79 ans en avril 2001? Eh bien, pas du tout, figurez-vous. Lui n'avait touché que $45 pour sa création. Il déclarait n'en ressentir aucune amertume. Bah, il est vrai quand même que pour avoir créé le Smiley, ce drôle de petit bonhomme jaune, solaire et souriant, fallait avoir une bonne nature. C'était sans doute son cas.
Merci beaucoup Clémentine. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on joue aussi, enfin on se joue de moi surtout. Born to be alive.
Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça Stéphane. Toutes les questions sont écrites par des historiens indépendants et toutes les questions ont été mises sous scellé, décachetées par des huissiers quelques secondes avant la compétition. On a pris un arbitre loyal et neutre. Qui n'y connaît rien en histoire, c'est-à-dire moi. Donc je suis au-dessus de tout soupçon.
J'ai pas vu de scellé et j'ai pas vu des historiens indépendants. Mais bon
écoutez, vous êtes de mauvaise foi. Allez, on va jouer. Et on va commencer avec vous, comme d'habitude, Stéphane. Si vous voulez, vous pouvez finir la citation que je vais vous citer tout de suite. La démocratie, c'est l'oppression du peuple par le peuple.
Oui.
Voilà ce que je voulais dire pour commencer ce quiz avec une petite citation d'Oscar Wilde. Oscar qui nous a quittés en 1900 à Paris dans l'hôtel d'Alsace, qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel.
L'hôtel des Beaux-Arts.
Rue Bonaparte.
Il s'appelle l'hôtel, tout simplement.
Ah bon ?
Ah oui.
Non, il n'est pas rue Bonaparte.
Non,
il
c'est
est rue des Beaux-Arts.
C'est le prolongement de la rue Bonaparte. Elle ne s'appelle plus la rue Bonaparte
non.
À ce moment-là.
Elle est perpendiculaire à la rue Bonaparte.
Pour moi, elle a toujours été la rue Bonaparte.
C'est pas une question Google Maps, hein, de toute façon. Donc...
Ils ont conservé son parapluie, je crois, et sa note d'hôtel.
Bah justement, non,
ah, zut, c'était la
trop,
question.
N'en dites pas trop.
Allez, désolé.
Posez votre question.
Allez.
Ah, que dit la légende, Stéphane ? Qu'il a payé 3 jours d'avance, mais qu'il est mort la première nuit, ou qu'il n'a rien payé, donc il leur doit encore de l'argent ?
Il doit encore de l'argent parce qu'il a trinqué dans sa dernière nuit en disant. Je meurs au-dessus de mes moyens. Et ces derniers mots, c'est je ne sais pas si c'est ce papier.
C'est le papier pas au moi, il y en a un qui va devoir disparaître.
Ouais, non, il n'a pas eu le temps de régler sa chambre, ni les bougies, ni les bouillons. Il en avait en tout pour 180 francs. Et la légende dit qu'en voyant le papier peint, vous l'avez cité, Wilde aurait déclaré c'est lui ou moi. Ouais. Une question pour Clémentine à présent. On reste dans le thème de la mort des célébrités avec Hemingway. Hemingway se suicide avec un fusil en 1961 à 61 ans. Probablement atteint d'un début d'Alzheimer, d'hypertension, de cécité à cause du diabète, d'une cirrhose et de bipolarité. Son entourage pense qu'il est aussi atteint de paranoïa. D'ailleurs, il pense qu'il est sur écoute. Après son décès, on a su la vérité. Alors, est-ce qu'Hemingway était sur écoute ou non ?
Ça serait intéressant parce que justement, il y a eu l'épisode de la baie des cochons. Il habitait à Cuba tout de même. Il a habité à Cuba. Il a sa maison et son musée à Cuba, Hemingway, non, Stéphane ? Et donc, est-ce qu'il aurait pu être écouté dans le cadre d'une suspicion de collusion avec Cuba au moment de la baie des cochons ? Mais c'est juste après ou c'est... Moi, je dis oui. Il était sur écoute.
Oh là là, vous êtes très très fort aujourd'hui. On écoute aussi vraiment, mais par principe. Hein.
Vous avez... gagné !
Les archives du FBI l'ont confirmé. Hemingway est mis sur écoute dès 1940. C'est le président Hoover qui le décide. Hemingway, vous avez tout à fait vu juste, était soupçonné de collaborer avec le régime cubain. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Eh bien, ça sera l'objet d'une prochaine question dans ce quiz. Vous êtes ex aequo un partout, à vous Stéphane. Aujourd'hui, tout le monde s'envoie par SMS des photos de soi dénudées. Ne dites pas le contraire, je sais que vous le faites.
Oh bah non,
je viens d'en recevoir une. L'ancêtre du nudes est une aquarelle où une artiste américaine a envoyé un assez joli portrait de sa poitrine peinte sur un morceau d'ivoire à un homme. Donc ça, c'est une information. Mais il date de quand ce tableau? C'était au 18e siècle, au 19e ou au 20e siècle?
C'est le plus vieux, ça.
Oui.
Et moi, je m'attendais même à ce que vous nous citiez.
Ah, l'antiquité.
Oui, les rideaux, ou je ne sais pas quoi, sur de l'ivoire à Carthage.
18e siècle.
Ou au Japon.
D'abord, ça ne peut pas être le 20e parce qu'on n'en voit plus d'ivoire. 18e.
18e. On vérifie.
Vous avez perdu.
C'était au 19e, Stéphane.
Oh, bon, non, mais franchement.
Quoi? D'accord.
Non, mais je trouve que vous voyez, la réponse est un peu décevante. Oui, ça, c'est au 19e.
Bah, excusez-moi, il y a 3 propositions.
Vous nous auriez dit, est-ce que c'était au Moyen-Âge, au 19e ou,
excusez-moi,
au 20,
Stéphane, voilà. Vous êtes toujours avec votre avocate? Comment ça se passe? Alors, au 19e, Sarah Goodridge, artiste, a envoyé cette aquarelle à Daniel Webster, qui était sénateur. Et à la mort de l'épouse de Daniel, Sarah peint cette œuvre appelée Beauté révélée et lui envoie. Une correspondance montre qu'ils étaient amants. Daniel va se remarier, mais avec une autre femme.
Encore, bien.
Alors, pour l'instant, il y a un point pour Stéphane, un point pour Clémentine. Clémentine peut remporter ce quiz sur cette question. Gandhi a envoyé 2 lettres à Hitler. Que ce soit pour la première ou la deuxième, la démarche est la même. Tenter d'empêcher le Führer de commettre l'irréparable. Au moins, il aura essayé. À la deuxième lettre, Gandhi s'adresse à Adolphe. En tant qu'ami, en tant qu'obligé, en tant que partenaire.
Alors, en tant que partenaire, je ne vois pas, parce que à quel point de vue Gandhi aurait-il pu être? Il n'est pas encore un homme d'État. À ce moment-là, il est une sorte de leader spirituel, de gourou. Le traité d'amis, c'était quand même tout en lui faisant cette somme de reproches. Moi, je dirais, mais son obligé, mais en quoi aurait-il pu être son obligé? C'est son obligé qui me paraît le plus... allons au plus simple. Je pense le plus simple, le plus basique, c'est que on soit très très choqué que Gandhi ait dit à Hitler, mon ami, cher ami, faites quelque chose.
Vous avez envie d'être choqué aujourd'hui?
Non, mais non. Ça va être mon ami.
Vous avez encore gagné.
Ah oui. Bravo.
Oui, c'est bon.
Vous explique quand même?
Qu'on apprenne quelque chose quand même.
Exactement, en tant qu'ami, car il précise, il n'a pas d'ennemis. C'était dans ce sens-là qu'il disait.
Mais je crois me souvenir qu'il y a même eu des propositions pour Hitler et le prix Nobel de la paix dans ces années-là. Et un truc hallucinant.
Et Gandhi a écrit, nous n'avons aucun doute sur votre courage et votre dévotion envers votre patrie. Nous ne croyons pas non plus que vous êtes le monstre décrit par vos opposants. Raté. Mm-hmm.
Oui, c'était bien raté.
Voilà, bravo Clémentine.
Merci Clémentine, à demain.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, continue avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez, Virginie Giraud et nos personnages du jour qui ont le sourire après la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun qui en a esquissé un sur son célèbre autoportrait. Je vous raconte le comédien Conrad Veidt qui dans L'homme qui rit a montré toutes ses dents dans un sourire devenu légendaire. Et largement repris aussi. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un artiste chinois qui rit carrément aux éclats.
Oui, Yu Mingjun, c'est son nom. Le temps d'apprendre à bien le prononcer, je vous le raconte tout à l'heure.
Il vient de quelle région de Chine?
De la province de Heilongjiang.
Bref, prenez encore un petit peu de temps pour réviser.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Son nom ne vous dira peut-être rien et pourtant... Il a été l'une des grandes stars internationales du cinéma muet. Il a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la pop culture en inspirant les traits du plus célèbre méchant de toute la pop culture, le Joker, ennemi juré de Batman. Je vous raconte maintenant L'homme qui rit, Conrad Veidt. Nous sommes en octobre 1927 dans les studios de cinéma de la gigantesque Universal City à Los Angeles. Assis sur son fauteuil, Conrad Veidt se concentre pour entrer dans la peau de son personnage pendant qu'un maquilleur s'affaire autour de lui. L'homme applique d'abord une couche de fond de teint vert clair, puis un rouge à lèvres très foncé avant de cerner les yeux de noir. L'inquiétante pâleur du visage est renforcée par de fausses dents démesurées et des crochets invisibles qui tirent les coins de la bouche de l'acteur vers l'arrière. Satisfait du résultat, observant dans le miroir ce rictus tordu, cet air de clown triste et effrayant,
Les deux hommes ne se doutent pas une seconde de la postérité du visage qu'ils viennent de dessiner. À 34 ans, l'acteur Conrad Veidt est déjà une star de cinéma reconnue. Mais à Hollywood, sa carrière commence à peine. Conrad Veidt n'est pas américain. Il est né le 22 janvier 1893 à Potsdam, près de Berlin, dans une famille de la classe moyenne protestante. Ses parents ne sont pas du métier. Son père, très conservateur, est un ancien militaire. Conny, comme on surnomme l'enfant, se rêve chirurgien, à l'image du médecin qui a sauvé son père d'une délicate opération. Mais l'école n'est pas son truc, sauf peut-être lorsqu'il s'agit d'y jouer le spectacle de Noël. À la faveur d'un monologue qui remporte l'adhésion du public, le garçon prend une décision. Il sera comédien, au grand désespoir de son père. « Un acteur est un gitan, un marginal », lui crie-t-il. Dans les années 1910, l'acteur est encore un être à part, un déclassé. Mais le jeune homme est certain de sa vocation. Il se plonge dans l'étude des carrières des grands comédiens, se crée un look distinctif avec un large chapeau, une cape noire et un monocle, et quitte l'école pour arpenter les trottoirs à la sortie des théâtres dans l'espoir d'y rencontrer quelqu'un. Un soir, Conrad Veidt finit par attirer l'attention d'un artiste qui accepte de l'aider gracieusement à préparer sa première audition pour le célèbre metteur en scène de Berlin, Max Reinhardt. Il décroche un rôle, puis deux, et passe du théâtre au cinéma. En 1920, Conrad Veidt est à l'affiche du cabinet du docteur Caligari, un bijou du genre expressionniste qui se développe alors dans la République de Weimar. Des films aux décors irréels qui traitent souvent de la folie et des troubles psychologiques dans une ambiance sombre et angoissante. Interprétant le rôle d'un meurtrier somnambule, l'acteur commence une longue carrière de méchant qui le verra aussi incarner Raspoutine ou Ivan le Terrible. Dans la vie, Conrad est pourtant un vrai gentil. Il s'engage pour des films au fort discours social qui militent pour la dépénalisation de l'avortement, pour les droits homosexuels ou contre l'antisémitisme. À l'écran, le talent de l'acteur est tel que sa renommée atteint l'Amérique. Hollywood lui fait les yeux doux et Conrad Veidt se laisse charmer. Il n'est pas le seul parmi ses compatriotes à faire le voyage. Le réalisateur Paul Leni, grande figure du cinéma allemand, a été invité à Los Angeles par le fondateur et patron de la société de production Universal Pictures. Leni devient l'un des premiers réalisateurs allemands à s'installer aux États-Unis. De nombreux autres suivront. Il y réalise deux films, puis s'attelle en octobre 1927 à un nouveau projet. Une adaptation à l'écran d'un roman de Victor Hugo, « L'homme qui rit ». L'histoire de ce roman méconnu débute à la fin du XVIIe siècle en Angleterre. Un saltimbanque nommé Ursus recueille un enfant abandonné dont le visage a été affreusement mutilé. Sa bouche, élargie de chaque côté jusqu'aux oreilles, forme un horrible sourire qui ne s'efface jamais. Dans le film de Leni, Conrad Veidt reprend le rôle de cet enfant devenu comédien, Gwynplaine. Mary Philbin, star féminine du Fantôme de l'Opéra, sortie un peu plus tôt, lui donne la réplique. À la fin des années 20, le cinéma est encore muet. L'apparence des personnages est absolument primordiale. Alors les studios Universal font appel à un homme, Jack Pierce, acteur et surtout maquilleur à la renommée grandissante. C'est lui qui imagine les yeux tristes et le sourire forcé de Gwynplaine. « The Man Who Laughs » en version originale est un succès critique plus que public. L'usage des lumières et des ombres, les décors, l'atmosphère générale influencent durablement les genres du film d'horreur et du film noir pour les décennies suivantes. Mais c'est surtout le maquillage imaginé par Jack Pierce qui signe d'ailleurs 3 ans plus tard le célèbre visage de Frankenstein dans le film du même nom qui va marquer durablement la pop culture mondiale. Dans les années 40, les dessinateurs Bob Kane et le scénariste Bill Finger, qui ont donné naissance au personnage de Batman en 1939, cherchent à doter leur super-héros d'un adversaire terrible et durable. Leur collaborateur, Jerry Robinson, retombe alors sur une photo de Conrad Veidt grimé en Gwynplaine. C'est une révélation. Le terrible Joker est né. Le vilain le plus célèbre de l'univers comics est donc inspiré d'une œuvre de Victor Hugo. De son côté, Conrad Veidt continue sa carrière. Les succès qui s'enchaînent font de lui l'une des premières stars internationales du cinéma. En 1937, il partage notamment l'affiche de Dark Journey, un thriller d'espionnage avec l'actrice Vivian Leigh. De retour en Allemagne au moment où le cinéma devient parlant et où il sent que son fort accent germanique lui coûtera sa carrière hollywoodienne, Conrad est finalement contraint de fuir son pays et ses dirigeants nazis. En 1940, avec sa femme de confession juive.
Deux ans plus tard, dans le film Casablanca, il campe le major nazi Heinrich Strasser, un rôle aux antipodes de ses convictions antifascistes, probablement son rôle le plus connu aujourd'hui, l'un de ses tout derniers aussi. Au printemps 1943, Conrad Veidt s'effondre sur un terrain de golf de Los Angeles, victime d'une crise cardiaque. Seulement trois mois avant la sortie dans les salles obscures américaines de la toute première adaptation de Batman au cinéma.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Conrad Veidt, nous avons le plaisir d'accueillir un critique de cinéma qu'il connaît bien. Bonjour, Léo Sonsanto.
Bonjour.
Léo Sonsanto, vous êtes journaliste cinéma au quotidien Libération. Déjà, pour les néophytes du cinéma expressionniste allemand, dont, je l'avoue, je fais un peu partie, par quoi se caractérise-t-il? Quels en sont finalement les codes?
Comme son nom l'indique, c'est un cinéma très expressif, très exagéré, très atmosphérique. Et comme vous le disiez, c'est un cinéma très sombre, mais qui joue beaucoup sur le contraste entre l'ombre et la lumière. Donc dans ce type de cinéma, qui est forcément en noir et blanc, la lumière est vive et surtout les ombres sont très dramatiques, c'est très sombre. Donc il y a des décors bizarres, comme vous le mentionniez. Les acteurs, selon nos critères actuels, surjouent, on va dire. Et c'est un cinéma très angoissé, très anxieux, qui est vraiment une caisse de résonance de l'époque. Puisque c'est, comme vous disiez, la République de Weimar, c'est après-guerre en Allemagne, c'est incertitude, c'est la crise, on ne sait pas trop comment on va être mangé en Allemagne et tout ça. Donc c'est le contexte de la défaite. Weimar, c'est très fragile. Et le cinéma expressionniste, au travers de films comme Cabinet du docteur Caligari, Nosferatu, et tout ça, vont être exprimer ces angoisses. Et même un critique allemand comme Siegfried Krakauer dit que tout le cinéma expressionniste, en fait, va préparer, pas le nazisme, mais va être le terreau, en fait, de toutes les angoisses qui vont faire tomber l'Allemagne dans les griffes du nazisme.
Conrad Veidt et Paul Leni, qui réalisera donc L'homme qui rit, sont invités à Los Angeles dans les années 20 et sont aussi obligés d'ailleurs de fuir l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Le cinéma expressionniste allemand trouve donc un nouveau souffle finalement aux États-Unis, à Los Angeles particulièrement.
Oui, finalement, tous ces cinéastes, tous ces réalisateurs de cinéma, enfin de films expressionnistes, vont émigrer aux États-Unis. Ils vont pas faire forcément des films expressionnistes parce qu'on est à Hollywood, donc on veut du glamour, on veut des choses peut-être un peu moins angoissantes. Mm-hmm. Mais ils vont beaucoup influencer donc le cinéma classique hollywoodien tel qu'on le connaît. Sans le cinéma expressionniste, n'aurait pas de films noirs. Fred Hitchcock aussi revendiquait le cinéma expressionniste comme une de ses influences. Donc on va dire que sans cinéma allemand expressionniste, sans cinéastes allemands aussi, en général, comme Billy Wilder, Douglas Sirk ou Otto Preminger, il n'y aurait pas de cinéma moderne hollywoodien comme on connaît maintenant.
Virginie ?
Paul Leni choisit d'adapter le roman « L'homme qui rit » de Victor Hugo en 1927. Pourquoi cet ouvrage-là en particulier, alors qu'il est très peu connu parmi l'ensemble des œuvres de l'écrivain ?
Eh ben, cocorico, parce que Victor Hugo est assez populaire aux États-Unis. Les Misérables ont déjà été adaptés au moins deux fois en version muette. Notre-Dame de Paris a déjà été adapté par Universal, donc la société de production donc, qui est derrière L'homme qui rit. Et déjà, dans Notre-Dame de Paris, on a Quasimodo, donc figure tragique, déformée, un monstre triste et poignant comme L'homme qui rit, donc comme héros de Conrad Veidt. Donc il y a déjà ça qui est dans les esprits donc, des spectateurs et du studio. Et encore Cocorico, juste avant L'homme qui rit, Universal fait un autre film d'horreur qui s'appelle Le fantôme de l'opéra, donc adapté de Gaston Leroux. Donc il y a déjà cette francophilie et cette envie de chercher des monstres tragiques dans la littérature française et européenne.
Jean-Luc ?
Conrad Veidt, avant même d'incarner ce personnage qui donc donnera naissance au Joker, incarnait pas mal de rôles de méchants. Est-ce que c'était, entre guillemets, la gueule de l'emploi, c'était son physique qui faisait ça ?
Il y avait une tronche, comme on dit, il a joué des méchants dans Caligari, donc, qui joue un meurtrier qui était somnambule, mais qui était hypnotisé par un psychiatre. Il a joué dans Les Mains d'Orgac, dans L'étudiant de Prague, où il jouait deux jumeaux magnifiques. Donc oui, il a joué des rôles de méchants, mais c'était souvent des rôles de méchants tragiques, enfin des anti-héros. Donc oui, méchants, mais toujours un méchant, des méchants intéressants, et pas des figures de pacotille comme les nazis à l'époque.
J'ai évoqué le maquillage réalisé par Jack Pierce. C'est ce qui donne finalement, au-delà de son apparence, tout son sens à son personnage. Au-delà d'un bon comédien, il fallait donc un bon maquilleur, et en l'occurrence, Jack Pierce en était un.
Jack Pierce, oui, qui était maquilleur, et comme vous l'avez dit, un acteur, mais c'était aussi un homme de cinéma complet. Il a été cascadeur, il a été gérant de cinéma, et il a piqué aussi une idée au cinéma expressionniste, qui est un truc assez classique dans ces films-là, c'est-à-dire de mettre un maquillage blanc, donc entièrement blanc sur les acteurs, de cerner les yeux avec du maquillage noir. Donc c'est la tête de Conrad Veidt dans Caligari, c'est la tête de Conrad Veidt dans L'Homme qui rit. Donc Jack Pierce a cette très belle idée, et surtout ce maquillage de L'Homme qui rit va lui servir de gaillot d'essai, donc pour être à plein temps chez Universal et faire ces maquillages que l'on connaît tous maintenant, Dracula, le loup-garou, la momie, et surtout, comme vous l'avez dit, le monstre de Frankenstein. Oui. Donc Boris Karloff avec cette tête carrée avec les boulons qui dépassent et les cicatrices et cheveux tirés en arrière, c'est Jack Pierce.
Virginie ?
Pour quelle raison Bob Kane et Bill Finger jettent leur dévolu sur le personnage de Gwynplaine pour créer le plus grand ennemi du futur Batman ? C'est le sourire qui les inspire ?
C'est le sourire qui les inspire. Il y a des histoires assez contradictoires sur la création de Batman. Donc, Conrad Veidt, cette photo de l'homme qui rit, va bien sûr les inspirer. Mais on parle aussi d'une publicité pour une fête foraine qu'ils auraient vue à New York. On parle aussi de plus clairement la carte à jouer, du Joker dans un paquet de cartes. On dit même que Bob Kane, quand il était plus jeune, ressemblait aussi au Joker avec sa figure allongée, son sourire un peu carnassier. Ce qu'ils vont chercher dans le sourire du Joker, c'est clairement une gueule, une tronche. Et les ennemis de Batman, dans la BD et aussi dans les films, se distinguent par leur tronche. Le Joker, Double Face ou le Pingouin, ce sont des têtes qu'on n'oublie pas. Et ce sourire, surtout, c'est l'antithèse de Batman, qui est quelqu'un d'assez sérieux, d'assez morose, d'assez lugubre. Quoi de plus normal que de trouver comme antithèse à Batman, comme pire ennemi, le sourire et ce méchant, donc le Joker, tout habillé en violet, très très flamboyant, à l'opposé de Batman qui est dans sa cape bleue ou noire, assez ennuyeux.
Et ce sourire les inspire donc tellement qu'il crée donc une sorte de clown démoniaque avec ce sourire figé sur le visage. Il incarne quoi le Joker au départ ?
C'est un clown, c'est fou du roi, c'est le désordre, c'est le chaos, qui est encore une fois en opposition à Batman, qui incarne l'ordre, la justice, donc le sérieux, quoi.
Mais c'est-à-dire qu'il est devenu un personnage de comics, de BD, mais aussi de film. Il a été incarné au cinéma plusieurs fois, avec César Romero jusqu'à Joaquin Phoenix aujourd'hui. C'est vraiment un rôle qui récurrent.
C'est un rôle qui est récurrent et c'est un rôle qui est permanent, en même temps qui change au fil des époques. Le Joker, aussi bien dans la BD, chez César Romero, dans les Batman, dans la série de Batman des années 60, un peu parodique, c'était un clown un peu démoniaque, mais pas très, un peu inoffensif. Et il est devenu au fur et à mesure un meurtrier, un peu psychopathe. Dans les films de Tim Burton, c'est un clown dandy qui se sent un peu comme un artiste frustré et qui veut faire de l'assassinat une performance. Chez les films de Christopher Nolan, incarné par Heath Ledger, c'est clairement un terroriste à Ben Laden qui veut semer le chaos et voir le monde brûler. Il y a Jared Leto dans Suicide Squad, c'est un rock'n'roll star un peu drogué. Et dans Joaquin Phoenix, c'est l'artiste frustré de la rue qui veut être célèbre pendant 15 minutes, qui veut être vu. Donc le personnage
évolue
en fonction de l'époque.
Et pour vous, la meilleure interprétation du Joker, c'est qui ?
Oh, moi, j'aime beaucoup Jack Nicholson parce que j'ai grandi avec vraiment ce côté dandy, ce côté clown.
Mais ça tombe bien aussi, parce qu'on l'a.
Ouais.
On peut l'écouter.
On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir ?
Oui, je l'ai dit en français. Oui, c'est ça.
On perd un petit peu Jack Nicholson.
C'est la doublure.
C'est le gage, c'est pas mal.
Mais pour terminer, vous nous avez dit en préparant cette émission que le sourire du Joker pouvait avoir plusieurs messages jusqu'à devenir un symbole de protestation après la sortie du film éponyme de Todd Phillips en 2019. Que dénonce le Joker et son sourire pour vous alors aujourd'hui ?
Il y a quelque chose d'un peu populiste. Le Joker, le maquillage du Joker après la sortie du Joker, du film, a été récupéré dans pas mal de manifestations à travers le monde, des manifestations anti-gouvernementales au Chili, au Liban, à Hong Kong. On a même vu un gilet jaune à Paris grimé en Joker. Donc il y a clairement cette idée d'opposition au pouvoir. C'est encore la figure du fou du roi qui peut tout dire, qui est en opposition à l'autorité et qui fait peur, parce que le joker, dans le paquet de cartes à jouer, c'est la carte la plus forte. Mmh. C'est la carte qui gagne surtout des combinaisons. Et on ne sait pas pourquoi il gagne, mais elle est là.
Il est maître du jeu.
Il est maître du jeu. Au bout du compte, c'est lui qui gagne.
Merci beaucoup, Leo Soresanto, d'être revenu avec nous sur cet acteur allemand qui a marqué la pop culture jusqu'à aujourd'hui grâce à son sourire diabolique, probablement d'ailleurs sans le savoir, et grâce aussi à Jack Pierce, le maquilleur. Je rappelle qu'on peut vous lire dans les colonnes de Libération, en tout cas votre culture cinématographique nous a vraiment impressionnés cet après-midi. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez et Virginie Giraud, on réunit des personnages qui ont le sourire, comme nous aujourd'hui. Et surtout comme Elisabeth Vigée-Lebrun et Conrad Veidt. Et vous nous racontez maintenant, Jean-Luc, l'artiste chinois qui sourit tout le temps, Yu Min-jun.
L'abbé Pierre a dit très joliment un jour, Stéphane, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. Ça tombe bien.
Pensez-y.
Ça peut servir. Votre sourire est un peu d'électricité, ça ne va pas passer en ce moment. Alors on sourit lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est mal à l'aise ou lorsqu'on n'écoute pas son interlocuteur. Le sourire, un très bon mécanisme de simulation quand on se fiche totalement de ce que raconte l'autre. plus précisément, pour ne citer personne, sur l'émission historique d'une grande radio nationale, lorsqu'on tente de simuler un semblant d'intérêt pour son chroniqueur, tout en se demandant en réalité si l'esturgeon fumé n'est finalement pas plus rentable que le caverne pétrochon pour un autre ami.
Vous prêtez des pensées bienveillantes.
Oui, bien sûr. Merci Stéphane. Le sourire est partout, tout le temps. Dans nos émoticônes, pour faire passer un message vexant par SMS, type « Bernard, t'es viré ». Smiley, pleurs de rire. Smiley, étoile dans les yeux. Smiley, tête d'ange. Le sourire se trouve chez nos reines de beauté, sur les patates McCain en forme de sourire qu'on refile à notre progéniture quand on est en panne d'inspiration le soir. Sur vos boîtes de dentifrice Oral-B, dans les 4x3 publicitaires d'une compagnie d'assurance auto, où une opératrice porte un micro-casque pour vendre des contrats qu'elle ne comprend même pas. Oui, vous noterez que les mannequins sourient toujours sur les campagnes de pub pour les assurances auto. Mais laissez-moi vous présenter ma mâchoire du jour, Yu Min-jun, soit le sourire le plus célèbre de l'art contemporain. Ah, le sourire et l'art. Vaste sujet, Stéphane.
C'est pas moi. Okay. Je tiens à dire que c'est pas moi.
Ouais, merci, vous faites même plus semblant alors.
Non, c'est pas moi.
Les critiques d'art le classent dans le mouvement réaliste cynique chinois. Lui refuse cette étiquette, comme toute forme d'étiquette d'ailleurs. C'est un papillon libre, un sourieur rebelle. Vous connaissez le sourire de cette bonne Mona Lisa, qui hélas ressemble à l'égérie d'un traitement favorisant le transit intestinal? Eh bien, les sourires conceptualisés par Yu Min-jun sont tout autres. Ils sont éclatants, trop pour ne pas dire angoissants, tellement dada, se dépeindre riant aux éclats dans diverses mises en scène sous forme d'autoportrait. Sur ses toiles, lui, hilarant slip, ou avec une toque de chef, jouant à cache-cache sous une chaise, avec le casque d'un policier britannique, portant le masque de Catwoman, aux côtés de sa mère, visée par des hommes armés. Bref, un pot pourri de saveurs pas vraiment hilarantes, mais profondément engagées. L'art de l'autoportrait, c'est un concept fascinant, qui pose cette question hautement philosophique. Comment je me vois ? Merci Stéphane, vous, on savait déjà.
Non, c'est vous qui me voyez comme ça plutôt.
Peut-être, je me l'avoue.
Vous avez choisi cette musique.
Non, mais c'est vous qui l'avez envoyé.
Moi, je demande rien.
Avec votre petite console,
tout
vous l'envoyez.
Tout le monde sait que je ne dirige rien.
Bien sûr.
C'est beau de vous voir flirter en tout cas.
C'est un autre sujet. Sur quasi chacune de ces toiles, un sourire de ce qui semble être une mâchoire de 96 000 dents blanches, tel un piano à queue Yamaha, dont le devis d'orthodontie dépasserait le salaire de Lionel Messi. Un minois entre Henri Salvador et le Joker, sous LSD. Yu s'autopeint, les yeux fermés, figé dans son hilarité, la peau rouge et moite façon fin de buvette au salon de l'agriculture. Alors comme ça, vous allez me dire, qui est assez tordu pour décider de faire fortune avec son propre visage vilard ? Folie ? Inquiétante mégalomanie ? Non. Le message de l'artiste est essentiellement politique. Ses autoportraits sont décrits comme une réaction auto-ironique au vide spirituel et à la folie de la Chine moderne, pour citer le théoricien Li Xianting. Vous connaissez Li Xianting, Stéphane, bien évidemment.
Je rugis de plaisir.
C'est ça, exactement. Merci, vous m'êtes d'un grand soutien. Les visages qu'il peint, le sien donc, ne regardent pas ce qui se passe autour de lui parce qu'ils n'ont rien à regarder. Ils n'ont aucun intérêt pour ce qui peut arriver, dit-il. Il utilise le rire pour dénoncer les crispations et les dérives de la société chinoise. Yu Min-jun voit le jour en 1962, en Chine donc. Après avoir travaillé sur une plateforme pétrolière pour faire comme papa, il intègre un groupe d'artistes de rue. et réalise des portraits de ce qu'il appelle ses compagnons de bohème. Il s'essaye ensuite à l'autoportrait, voulant offrir sa personne à la risée des autres. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est en 2007 qu'il se fait connaître dans le monde entier avec son tableau « Exécution ». Ah ouais, je vous l'ai dit, c'est pas qu'un rigolo, Yumin Jun. Description de la toile, quatre hommes en slip kangourou sur le point de se faire exécuter par des fusils invisibles, ayant tous à la place du visage l'autoportrait du peintre, mort de rire. Une peinture magnifique à exposer dans les 3e WC de votre maison du Perche, Stéphane. Prix de la nouvelle déco de toilette, 3,2 millions d'euros.
Ah non, arrêtez.
Ah si, c'est pas du Pierre Rapport. Je suis désolé. À partir de 2007, 13 de ces peintures sont vendues plus d'un million de dollars. Ironiquement, quand on tombe sur une photo de l'artiste posant devant ses toiles, il tire une tranche plus longue encore que la ligne salaire sur votre fiche de paie Europe 1, Stéphane. Yumin Jun ne prétend pas donner dans l'esthétisme. Les belles peintures, je cite, lui donnent la nausée. Il ajoute, je lis, « Je ne cherche pas l'élégance. Ce que je peins est très vulgaire. Je me considère comme un artiste vulgaire. Cette vulgarité est plutôt bien accueillie par le grand public, car lui non plus n'aime pas les choses élégantes. Je ne fais que m'adapter à ce goût populaire. » Heureusement qu'on n'est pas comme ça en France. Sinon, on préfère de l'audimat avec n'importe quoi en télé. Yumin Jun, ou le sourire le plus désabusé de l'art. De l'art contemporain. Allez, avec le sourire, je vous dis à demain les amis.
Merci beaucoup Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont le sourire pour retrouver deux chroniqueurs qui vont vous permettre de le garder encore un peu le sourire. Après l'artiste chinois David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un art japonais dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il s'appelle le Shindogu.
Oui, ça consiste à faire des objets qui ne sont pas utiles mais qui ne sont pas non plus inutiles. C'est pas japonais comme formulation.
Oui, c'est très très bien. À quoi ça sert, on ne sait pas, à quoi ça ressemble, on le verra.
Oui.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux quelle époque. Aujourd'hui, on parle mœurs avec vous, Virginie Giraud. On remonte en 1782. Chauderlot de Laclos vient de faire paraître son roman épistolaire « Les liaisons dangereuses », un roman qui serait féministe selon vous, Virginie.
La première fois que j'ai lu « Les liaisons dangereuses », j'avais 17 ans. Et évidemment, j'ai adoré.
Ah bah tiens, bah, curieusement, je suis pas étonné moi.
Si vous aviez vu ma bibliothèque d'adolescente, Jean-Luc, vous rougiriez.
À ce point-là ?
Vous n'imaginez même pas. Donc le livre « Les liaisons dangereuses » commence avec la préface de l'auteur Pierre Chauderlot de Laclos. Il nous explique qu'il a compilé des lettres de personnages existants pour nous faire croire qu'il n'en est pas l'auteur. Et puis, il dit que le but de ce livre est, je cite, « de rendre service aux mœurs en dévoilant les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes ». Et là, j'ai eu l'intuition qu'il se moquait un peu du lecteur quand même. Mes doutes ont été confirmés quelques lignes plus loin quand il écrit qu'une de ses amies a offert ce livre en cadeau de mariage à sa fille pour lui rendre service et que toutes les mères devraient en faire de même.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire en réalité, selon vous ?
Mais souvenez-vous un peu de l'intrigue. Madame de Merteuil, une veuve libertine, complote avec son ami le vicomte de Valmont pour dévergonder la petite Cécile de Volanges qui doit épouser un ancien amant de Madame de Merteuil. Maintenant, grattons un peu le vernis des personnages. Madame de Merteuil est une femme qui maîtrise son destin. Et Chauderlot de Laclos nous donne la recette de sa liberté dans la lettre 81.
Ce n'était pas le plaisir que je voulais atteindre, mais la connaissance. Je consultais d'austères moralistes pour acquérir le maintien, des philosophes pour apprendre à réfléchir, et des auteurs pour voir dans leurs romans jusqu'où je pouvais aller. Et tout cela, je l'ai distillé en un unique et merveilleux précepte, vaincre ou mourir.
La recette de la liberté, c'est l'éducation.
Oui, sauf qu'au XVIIIe siècle, l'éducation des filles se borne bien souvent à la religion et à la couture.
Vous avez raison Stéphane, et un an après les liaisons dangereuses, Chauderlot de Laclos publie un autre livre intitulé « De l'éducation des femmes ». Et là, il invective les femmes sans ménagement pour qu'elles prennent conscience de l'oppression sociale qu'elles subissent. Il écrit
« Venez apprendre comment, née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Comment, tombée dans cet état abject, vous êtes parvenue à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel. Comment, enfin, dégradée de plus en plus par une longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices avilissants, mais commodes aux vertus plus pénibles d'un être libre et respectable. »
J'adore quand vous me faites la lecture, David.
Ah, je vous en prie.
Mais cessons là notre badinage.
Il n'y a pas que moi qui drague Stéphane Bern, hein. Ça drague de partout ici.
Bon, en tous les cas, vous avez bien constaté que Chauderlos de Laclos n'est pas un gros misogyne. Il est plutôt à la pointe de l'esprit des Lumières. Il réfléchit à l'égalité homme-femme exactement comme le feront bientôt certaines révolutionnaires comme Olympe de Gouges, à qui on doit notamment la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Mais pourtant, alors si je me souviens bien, Madame de Merteuil finit mal, elle est obligée de quitter Paris.
Et oui, pour rendre son personnage supportable aux hypocrites et aux tartuffes, Chauderlos de Laclos doit punir Madame de Merteuil pour avoir été une femme libre. Elle disparaît parce que ses secrets ont été révélés. On n'a plus que des rumeurs à son sujet. On raconte qu'elle se serait exilée dans un autre pays et que son visage aurait été défiguré par la petite vérole. C'est le nom qu'on donne alors à la variole, à ne pas confondre avec la grande vérole qui sert à désigner la syphilis qui, elle, est une MST.
Mais avec une telle fin, c'est difficile de prendre Madame de Merteuil pour exemple.
Oui, mais le personnage auquel doivent s'identifier les jeunes filles qui lisent ce livre, comme le dit la préface, ce sont elles, hein, la cible de l'ouvrage. Eh bien, ce personnage, c'est Cécile de Volanges. Au début du livre, elle est une oie blanche, tout juste sortie du couvent, mais Madame de Merteuil lui apprend son art d'être une femme libre et Valmont l'initie à l'érotisme. Grâce à ses deux maîtres, elle est capable de faire semblant de se conformer à ce que la société attend d'elle, tout en concrétisant ses propres désirs.
Mais c'est un peu condamner les femmes à l'hypocrisie alors.
Si elles veulent cesser de l'être, elles devront alors avoir le courage de faire la révolution. C'est précisément ce qu'écrit Chauderlos de Laclos dans l'éducation des femmes. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul de le dire, puisqu'elle dépend de votre courage. Est-elle vraisemblable? Je me tais sur cette question, mais jusqu'à ce qu'elle soit arrivée, et tant que les hommes régleront votre sort, je serai autorisée à dire, et il me sera facile de prouver qu'il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes.
Chauderlos de Laclos était un crypto-féministe, alors ça alors vous avez révélé quelque chose. Mes aïeux, quelle époque! Merci beaucoup Virginie.
Merci.
On vous retrouve tous les jours dans le podcast d'Europe 1 Studio, au cœur de l'histoire. Vous nous parlez de deux personnages qui ont connu Chauderlos de Laclos et qui étaient plutôt d'accord avec ses idées.
Je vais vous raconter l'incroyable destin de Camille et Lucille Desmoulins, les amants de la Révolution qui se battaient aussi pour plus d'égalité. Mais comme ils n'étaient pas hypocrites, ils ont fini sur l'échafaud.
Ah, on écoutera ça avec attention.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, et surtout avec vous maintenant, David Cassel-Lopez. Vous nous parlez japonais aujourd'hui, ça nous change de l'anglais ou du portugais, cela dit.
Oui, le Shindogu. Shindogu en japonais, c'est la contraction de deux mots. Shin, qui veut dire inhabituel, et dogu, qui veut dire outil. Donc, Shindogu, si on résume, ça veut dire outil chelou. Et ça désigne un art suprêmement japonais qui consiste à fabriquer des objets qui ne sont pas utiles, mais qui ne sont pas inutiles non plus. Ils sont dans une sorte de purgatoire entre l'utile et l'inutile. L'art du Shindogu, ça part toujours d'un problème du quotidien un petit peu anodin, et il se propose de régler ces problèmes de façon tellement laborieuse que ça en devient complètement ridicule. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux. Des fois, le matin, quand votre réveil sonne, vous n'avez pas le courage de vous lever, donc vous appuyez sur le bouton snooze, ce qui n'est pas dans votre intérêt. Eh bien, le Shindogu propose un réveil avec des épines sur le bouton snooze pour vous dissuader de l'arrêter. Autre problème du quotidien. Quand il pleut, on a beau avoir un parapluie, il y a un endroit qu'il est toujours impossible de protéger, ce sont les chaussures. L'art du Shindogu propose quoi? Eh bien, de petits parapluies individuels pour les chaussures. Dans les objets célèbres du Shindogu, il y a aussi une barboteuse couverte de serpillière pour que les déplacements de votre bébé sur le parquet permettent de laver par terre. Dernier exemple, vous savez, des fois, quand vous mangez des nouilles ramen avec des baguettes, eh ben, c'est trop chaud et donc il faut souffler dessus. Mais souffler dessus, c'est fatigant. Et donc, le Shindogu a proposé des baguettes avec un mini ventilateur intégré de façon à pouvoir refroidir ses nouilles sans se fatiguer. Le Shindogu, c'est une sorte de mouvement artistique, absurde et humoristique. Mais alors, de quelle tête est-ce que c'est sorti? Eh bien, de la tête d'un monsieur japonais, évidemment, qui s'appelle Kenji Kawakami. Dans les années 90, Kenji, il était rédacteur d'un magazine de vente par correspondance qui s'appelait Mail Order Life. Et dans son temps libre, il fabriquait entièrement pour s'amuser des objets rigolos comme ceux que j'ai évoqués. Quelquefois, Kenji, il n'arrivait pas à remplir toutes les pages de son magazine de vente par correspondance, et donc il insérait des photos des objets de Shindogu qu'il avait fabriqués. Et ces pages, elles ont eu
tellement de succès de fou qu'il a commencé à faire que ça. Succès de malade au Japon, au point que c'est devenu un phénomène de mode non seulement au Japon, mais même aux États-Unis. En 1995, Kenji, il a fondé avec un ami américain la International Shindogu Society, et il a à cette occasion défini les 10 commandements du Shindogu. Par exemple, dans ces 10 commandements, il est dit que les Shindogu ne peuvent pas être brevetés. Sinon, ça veut dire qu'ils sont vraiment utiles. Mais surtout, derrière cette idée de ne pas être breveté, il y a l'idée que le Shindogu ne peut pas être vendu. Le Shindogu, c'est un geste gratuit et un geste qui, même si on ne s'en rend pas forcément complètement compte au début, a une portée un petit peu politique. Et d'ailleurs, Kenji lui-même, c'était un activiste libertaire dans les années 60. Quelle portée politique ? Eh bien, il dit que la société, le Shindogu, ça dit que la société de consommation, l'inflation de gadgets inutiles qu'elle produit, c'est un petit peu ridicule. Voilà, c'est pas hyper complexe comme message politique, mais c'est ça l'idée. Alors, il est arrivé au moins une fois qu'un gadget inventé dans une perspective de Shindogu fasse le voyage vers le monde de l'utile et du commercial, et ce gadget, c'est la perche à selfie. La première perche à selfie de l'histoire, elle a été inventée par un monsieur japonais pour rigoler comme objet presque inutile. Tout le monde l'a oublié, mais 20 ans plus tard, elle est revenue sur le devant de la scène, réinventée par un autre monsieur canadien cette fois-ci, que j'ai interviewé et que vous aviez eu le plaisir d'entendre dans ma chronique immortelle sur les origines de la perche à selfie. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 20 ans, un même objet peut passer de risible et teubé à un succès international, planétaire, industriel. Donc dans quelques années, peut-être que vous pourrez acheter des parapluies pour chaussures et des ventilateurs à nouilles.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion, et sur le site europe1.fr, où on peut également retrouver votre chronique sur la perche à selfie.
Tout à fait.
Et vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont été radiés. L'avocat sans foi ni loi américain, Roy Cohn, qui a été radié du barreau de New York. Le poète et écrivain devenu collabo, Abel Bonnard, qui a été radié de l'Académie française. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un radié plus récent.
Oui, très récent même, puisqu'il s'agit de Kanye West, radié de Twitter, mais aussi de plusieurs projets suite à des propos tenus à la télévision américaine sur Hitler et les nazis, qu'il dit apprécier. Oui, oui, je vous raconte tout ça demain.
Eh ben dis donc. Allez, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.